France Inter.
Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'état de la menace en France. Deux jours après l'attentat de Moscou, le plan Vigipirate repasse au niveau le plus élevé. Urgence, attentat, surveillance renforcée. Détail dans un instant. À Moscou, quatre assaillants présumés sont en détention provisoire. Après avoir été torturés, le pays pleure ses 137 morts. On va l'entendre et vous en reparlerez tout à l'heure avec votre invité Nicolas.
Oui, ce sera à 8h20 dans le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Notre invité aujourd'hui.
On reviendra avec lui sur l'état de la menace terroriste en France, sur l'attentat de Moscou revendiqué par Daesh et sur son nouveau livre « Holocauste au pluriel, Israël, Gaza et la guerre contre l'Occident chez Plomb ». Gilles Kepel est notre invité à 8h20.
Et vos questions 01 45 24 7000.
D'ici là, nous serons à Dakar au Sénégal où l'opposant anti-système Bassirou Diomaye Faye a pris la tête du premier tour de la présidentielle. On verra ce qui a séduit les électeurs. À Cayenne, en Guyane, où les pêcheurs sont en colère, ils le diront aujourd'hui à Emmanuel Macron. À Bordeaux, à l'occasion de la journée internationale de commémoration de l'esclavage. Et sur les pas du street artiste, l'un des plus connus du monde, les Space Invaders, sur les murs des villes, c'est lui, il ne parle jamais. Pourtant, Isabelle Pesquet a pu l'interviewer en exclusivité.
France Inter.
Quand l'international du terrorisme frappe Moscou, faut-il craindre pour la France? Question tranchée hier soir en Conseil de défense à l'Élysée. En sortant, Gabriel Attal a donc annoncé le relèvement du plan Vigipirate, niveau urgence attentat le plus élevé, car le groupe État islamique qui a revendiqué son attaque la plus meurtrière sur le continent européen est aussi une menace en France. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Que sait-on de l'état de cette menace?
Eh bien, l'augmente depuis un peu plus d'un an, d'après les services de renseignement. L'État islamique qui avait perdu en attractivité, des cellules ont été démantelées et le groupe s'est plus concentré sur d'autres terrains. Mais on assiste depuis quelque temps à l'émergence d'une génération jeune qui redécouvre depuis le sol français les vieilles vidéos de propagande redevenues virales où est souvent véhiculée l'idée selon laquelle la France serait l'ennemi de l'islam. Donc la crainte actuellement, c'est le passage à l'acte de personnes qui habitent en France, qui peuvent agir rapidement avec des moyens simples, marteau, couteau, hein, on l'a vu récemment avec les attentats d'Arras ou de Bir Hakeim à Paris. Le groupe État islamique a par ailleurs appelé à l'automne à agir en soutien à la cause palestinienne. Et puis vient s'ajouter la crainte d'un effet d'entraînement après l'attentat de Moscou, d'autant que l'État islamique au Khorassan a, selon Matignon, déjà été impliqué dans un projet d'attentat déjoué qui visait la France.
Mais qu'est-ce qui change, Ariane, quand Vigipirate passe au niveau urgence attentat?
Alors ça signifie surtout que la surveillance va être renforcée autour des endroits considérés comme sensibles, donc les établissements scolaires, les lieux de culte, les gares, surveillance par la police, la gendarmerie et bien sûr les militaires de l'opération Sentinelle. C'est le niveau le plus élevé, hein, le troisième du plan Vigipirate. Il n'y a pas de durée précise prévue par les textes pour son application. La dernière fois que nous sommes passés en urgence attentat, c'était après l'assassinat à Arras de Dominique Bernard. La mesure a duré 3 mois.
Ariane Grissel du service police-justice de France Inter. On ajoutera au tableau ce lundi sous haute sécurité dans de nombreux collèges et lycées des Hauts-de-France qui ont reçu des menaces d'attentats via le piratage de leurs espaces numériques. En Russie, pas de quartier pour les terroristes présumés. 4 hommes, désignés comme les assaillants du Crocus City Hall, ont été placés en détention provisoire hier, après avoir été torturés par les services de sécurité qui ont diffusé des vidéos des sévices subis pendant leurs interrogatoires. On l'a entendu dans le journal de 7h. L'attaque de vendredi soir a fait 137 morts et plus de 180 blessés. Malgré la revendication du groupe État islamique, les autorités russes ont dès le départ accusé l'Ukraine. Un deuil national a été décrété hier, journée de recueillement devant la salle de concert. Reportage signé Sylvain Tronchet.
Un prêtre orthodoxe prononce une prière devant le Crocus City Hall. Toute la journée, hier, des milliers de moscovites sont venus déposer des œillets rouges, comme Elena.
Nous sommes tous sous le choc. Tout Moscou pleure et est en deuil. Vous n'imaginez pas combien c'est dur et douloureux.
Le choc est immense pour ces Russes de tous âges qui s'interrogent. Certains accusent le terrorisme qui n'a pas de nationalité, disent-ils. D'autres, comme Ivan, adhèrent à la première piste évoquée par Vladimir Poutine.
Qui est derrière ça? L'Ukraine. Nous n'avons pas de conflit avec qui que ce soit d'autre. Vous êtes un média, vous savez cela parfaitement. Je pense que c'est l'Ukraine, je n'ai rien à ajouter.
Un peu plus loin, Georgi, un étudiant, lui, ne croit pas à la piste ukrainienne. Mais surtout, comme beaucoup, il pointe du doigt les manquements des services de sécurité.
Cette situation a montré que nos forces de l'ordre n'ont pas réagi très rapidement. Les terroristes ont réussi à s'échapper, ce n'est pas normal. Parcourir autant de kilomètres et ne pas être détecté par nos services, c'est très étrange.
Tard hier soir, les moscovites défilaient encore devant le Krokus City Hall, mais on n'y a pas vu Vladimir Poutine, qui a allumé un cierge dans une église proche de sa résidence, a dit le Kremlin. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
Quand Emmanuel Macron hausse le ton contre Israël et le fait savoir, le président a eu Benjamin Netanyahu au téléphone pour lui redire sa ferme opposition à une offensive sur Rafah et l'avertir que le transfert forcé de population est un crime de guerre. La tentation de la rupture au Sénégal après 3 ans de crise politique. C'est le candidat anti-système qui est en tête de la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye, largement devant le candidat du pouvoir. Son camp fête déjà la victoire, même si son adversaire assure qu'il y aura un second tour. Omar Waman est avec nous, bonjour.
Bonjour Florence.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Dakar. Omar, pas de chiffres définitifs avant plusieurs jours, mais les électeurs ont donc été séduits par le programme de Monsieur Faye.
Oui, et le projet que défend Bassirou Diomaye Faye n'est autre que celui de son mentor, Ousmane Sonko, dont la candidature a été invalidée. Et ce programme s'intitule « Pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Eh bien, qu'il veut rétablir la souveraineté nationale qui, selon lui, a été sacrifiée, notamment par l'ancienne puissance coloniale, la France, avec la complicité des élites sénégalaises depuis l'indépendance en 1960. La France, premier partenaire commercial du Sénégal, dont il veut réduire l'emprise économique. Cela doit passer notamment par la sortie du franc CFA qu'il veut abandonner au profit d'une monnaie locale. Il souhaite également renégocier les accords de pêche et de défense. Il veut revoir les contrats gaziers et pétroliers pour mieux redistribuer les richesses. Le Sénégal devrait commencer à produire du gaz et du pétrole dans les prochains mois. Mais cet inspecteur des impôts a surtout promis de combattre sans relâche la corruption, un fléau au Sénégal, ce qui lui vaut une énorme popularité, notamment parmi les jeunes.
Omar Waman, envoyé spécial de France Inter à Dakar, au Sénégal.
Il est 8h09, trouver un stage pour la fin juin, nouveau défi pour 560 000 élèves de seconde.
C'est une façon de ne pas les laisser dans la nature en fin d'année. Des offres sont mises en ligne à partir d'aujourd'hui sur le site Un Jeune, Une Solution. En Seine-Saint-Denis, ça n'est pas vraiment la préoccupation du moment. Un mois que les enseignants du département demandent un plan d'urgence pour le 9-3 entre grèves, manifestations et opérations collège désert. Ainsi, pour la deuxième semaine, les parents n'envoient pas leurs enfants au collège Jean Jaurès de Pantin. Reportage Faustine Calmel.
Toute la semaine dernière, ils étaient 2 ou 3 élèves en cours, parfois aucun, collège mort, pour protester contre des locaux vétustes, un manque de surveillants et des absences non remplacées.
Les moisissures, les plafonds.
Fatim Zora Guérib, parent d'élèves délégués.
Quand il y a une forte pluie, elle utilise des seaux pour des gouttes d'eau. L'année dernière, son prof, quasiment absent un trimestre et demi. Et c'est la langue française.
Mais faire travailler les jeunes à la maison n'est pas toujours simple. Anaïs, en 3e, brevet à la fin de l'année, est partagée.
Parce que aussi, on est là aussi pour que les prochains 6e aillent bien dans ce collège l'année prochaine. Et que nous, c'est compliqué de travailler dans ces conditions-là.
Le sacrifice, pourtant, en vaut la peine, martèle Leïla, autre maman.
Noyade, l'avenir il est fait, maintenant c'est le leur. Et si nous, parents, on les aide pas, qui va les aider ? C'est pas des conditions pour nos enfants, quoi. C'est pas parce qu'on est du 93 qu'on n'a pas le droit à l'égalité comme les autres.
Un soutien précieux pour les enseignants, comme cette prof d'histoire géo.
En REP+, on reste quelques années et puis après on part, il y a un gros turnover des personnels enseignants. C'est des gens qui habitent le quartier, c'est leurs enfants, leurs petits-enfants viendront au collège, donc c'est aussi une question d'échelle en fait, dans le temps. Et là, on est super fiers de pouvoir compter sur eux ces jours-ci.
Certains enseignants comptabilisent déjà 8 journées de grève en un mois et seront à nouveau mobilisés demain.
Faustine Calmel, décidément il ne se quitte plus, la FNSEA, de nouveau reçue par Gabriel Attal à Matignon ce matin pour faire le point sur les chantiers agricoles avant l'ouverture du congrès du premier syndicat de la profession demain. Et des agriculteurs de métropole, on passe aux pêcheurs guyanais qui ne manqueront pas d'interpeller Emmanuel Macron ce matin au marché aux poissons de Cayenne, premier déplacement d'une visite de 2 jours pour le président en Guyane. Le département fait face au pillage des bateaux du Brésil et du Suriname voisin. Coup dur pour l'économie et l'environnement. Célia Kiray est à Cayenne pour France Inter.
Approchez. En vent du poisson sur le marché de Cayenne.
À la criée, des poissons séchés attendent dans des bacs. Les étals de poissons frais ne sont pas pleins. Daniel Soudine, pêcheur, est visiblement crispé.
Ah oui, c'est vraiment un grand problème. À l'est, il y a beaucoup de bateaux brésiliens. Et à l'ouest, ils voient des bateaux surinamais. Ils ont beaucoup plus de filets que nous. Nous, on est réglementé à 2,5 km. Mais ils ont 4 km, 5 km par bateau. Bientôt, il n'y aura plus rien sur les étalages.
Les pêcheurs brésiliens et surinamais prélèvent 3 à 4 fois plus de poissons que les bateaux guyanais. Le président du comité des pêches, Léonard Ragnotte, lance une fusée de détresse.
On est en train de mourir. Hein. Vous imaginez, on est chez nous, on est en Guyane, on est en France, on est en Europe. On se fait harasser en mer, on se fait voler, on se fait piller. Moi, j'appelle ça de la piraterie.
Et cette pêche illégale met en danger les tortues luttes, alerte Laurent Kell du WWF.
On a trouvé jusqu'à 11 tortues luttes prises dans un seul et même filet. Forcément, mécaniquement, au bout de 20 ans, on est passé d'un millier de tortues luttes par an dans l'estuaire du Maroni à une estimation qui va être entre 20 et 40 par an. Donc ça fait plus de 95% de diminution en l'espace de 20 ans.
En 2023, plus de 200 tonnes de poissons ont été saisies. Une dizaine de bateaux de pêche illégale ont été détruits. Mais ici, la colère ne faiblit pas.
Célia Kiré, spécialiste environnement de France Inter en Guyane. Si je n'ai pas les moyens, j'arrête. En Guadeloupe, le maire de Pointe-à-Pitre menace de démissionner après plusieurs jours de violences urbaines avec barricades et barrages. Plusieurs communes de l'île sont touchées. Pointe-à-Pitre, en l'état, est un coupe-gorge, dit le maire, qui accuse des mineurs de mener une guérilla depuis vendredi soir sans force de l'ordre à la hauteur de la situation. La Guadeloupe où la mémoire de l'esclavage est bien vivante, mais qu'en est-il des ports négriers de métropole ? Bordeaux, par exemple, où 130 000 esclaves africains au moins furent déportés vers les Antilles jusqu'à l'abolition en 1848. Commerce qui fit la fortune des grandes familles d'armateurs. Passée sous silence pendant des décennies, cette page d'histoire refait surface. Sébastien Sabiron, ainsi en témoigne votre reportage en cette journée internationale de commémoration de l'esclavage.
C'est une rue tranquille à deux pas du centre-ville, la rue Dès, du nom de Pierre Dès, un corsaire bordelais qui a sauvé 92 marins de la noyade. Mais une plaque apposée dans la rue raconte une toute autre histoire.
Pierre Dès était un homme manifestement très impliqué dans la traite négrière.
L'écrivain Donatien Garnier est l'un de ses descendants.
Dans ma famille, cet homme était considéré comme un héros, une figure un peu romantique. 92 marins sauvés, combien d'Africains torturés, déportés, esclavagisés?
Des milliers sans doute, car Pierre Dès a mené une vingtaine d'expéditions négrières. Donatien Garnier l'évoque dans l'un de ses ouvrages.
Dans ma famille, le livre n'a eu aucun écho. Ça dit bien la puissance du déni. On n'en parle pas et c'est la meilleure façon pour que les choses n'existent pas.
Un déni qui a longtemps perduré dans la société bordelaise bourgeoise et discrète, mais les choses évoluent. Baptiste Morin, adjoint au patrimoine à la mairie de Bordeaux.
Il y a beaucoup de nouvelles familles qui sont arrivées, plus jeunes, et des néo-bordelais qui sont curieux de l'histoire de cette ville, ce qui permet d'aborder tous les sujets de manière très apaisée, sans apposer aucun jugement.
Outre les 8 plaques apposées dans les rues portant des noms de négriers, la ville mène des actions pédagogiques. Une section du musée d'Aquitaine est consacrée à l'esclavage. Carfa Diallo de l'association Mémoire et Partage.
C'est un bon en avant, mais qui n'est pas à gagner. Il y a toujours des résistances. On le sent d'une partie de l'élite. Maintenant, il faut arrêter de traîner cette histoire-là. Comme on boulait, ce qui manque encore, c'est une vraie politique publique mémorielle avec ce projet de maison esclavage et résistance que nous portons.
En la matière, rien n'est acté, précise la mairie de Bordeaux, qui réfléchit à la création d'un mémorial dédié aux victimes de l'esclavage.
Un reportage signé Sébastien Sabiron, à réécouter sur franceinter.fr. On s'en rend compte avec nos parents ou nos grands-parents. L'usage du smartphone n'est pas toujours évident pour ceux qui ont connu les téléphones à cadran, les applis et les usages évoluent à grande vitesse. Alors pour ne pas laisser nos aînés sur le bord de la route, l'opérateur Orange organise des ateliers gratuits dans toute la France. Benjamin Recouvreur s'y est invité en Mayenne à Château-Gontier.
Le thème du jour, les réseaux sociaux.
WhatsApp, Instagram.
Leur smartphone posé sur la table, ils sont 8 entre 60 et 80 ans, très attentifs à participer.
Voilà, mettre à jour, ça me dit tout le temps ça.
Oui, bah parce qu'il faut mettre à jour.
Ah bah, je ne sais pas comment faire. Alors, bon,
bah, il suffit d'appuyer dessus.
D'accord, j'ai toujours peur de faire une bêtise.
Annie, 63 ans, est souvent perdue sur Facebook.
Des fois, je me fais peur, mais bon, il faut bien faire des pas en avant. Hein.
Créer un compte, s'abonner, publier, discuter, se protéger, les conseils sont donnés par Romain Mornay, formateur.
Si on ne leur propose pas ces ateliers pour justement utiliser cet outil qui leur permet de garder souvent un lien familial, eh bien c'est vrai que c'est dommage pour eux parce qu'ils ont l'impression d'être exclus.
Le cycle compte en tout 4 ateliers, l'occasion de reprendre tout depuis le début, ce qui convient bien à Maryse, 77 ans.
Une fois, je suis restée coincée avec le téléphone qui ne marchait pas parce que j'étais partie à l'étranger et j'avais mis mode avion et je ne l'avais pas enlevé. Enfin bon, c'est moche quoi, d'en arriver là, aussi bien avoir les bases.
Mais ces ateliers visent tous les publics et il y en a besoin, précise Alexandre Cross, en charge des relations avec les collectivités chez Orange.
On s'aperçoit que même dans les zones urbanisées, on peut avoir des problématiques d'usage. Les jeunes aujourd'hui qui sont digital natives, eh ben parfois ils ont des difficultés pour envoyer une pièce jointe par mail.
Il n'y a pas d'âge ni pour s'y mettre ni pour apprendre, conclut-il.
Merci Benjamin Recouvreur. Pas besoin d'être au top du numérique pour apprécier son travail. L'homme colle des petits carreaux sur les murs de nos villes depuis 25 ans. C'est Space Invaders, personnage pixelisé en mosaïque, ont conquis la planète. Pourtant, on ne connaît ni son nom, ni son visage. Il se fait discret et protège son anonymat. C'est donc une chance d'avoir pu le rencontrer à l'occasion d'une grande exposition dans les locaux de Libération à Paris. Et c'est Isabelle Pasquier qui a décroché cette interview exclusive.
Bien caché sous sa casquette, Invader dévoile les coulisses de son incroyable invasion artistique. Des œuvres qui perturbent poétiquement, avec beaucoup d'humour, l'espace urbain dans 180 villes, 32 pays, en mode clandestin.
C'est vrai qu'à Paris, c'est quand même plus tranquille. Il n'y a pas si longtemps, je me suis fait arrêter par des flics qui m'ont dit « Mais on t'a déjà arrêté, toi, il y a 20 ans ?» Donc, ils m'ont laissé continuer. Maintenant, quand je voyage dans des pays étrangers, ça peut être un peu plus sensible. Il y a d'ailleurs des villes ou des pays où je passerai directement de l'aéroport à la casse-prise. Ça fait 10 ans que je peux pas retourner au Japon. Mais ce côté bravoure de l'interdit, et que ça fait partie du processus, en général, faut mieux pas se faire attraper.
Invader, c'est l'art au coin de la rue.
C'est aussi la beauté du street art, c'est que l'art prend part à la ville et prend part à la vie. Et puis, ça amène l'art à la portée de tout le monde. Il y a un gros travail de repérage en amont. Je trouve des lieux qui m'attirent. Quand je voyage, par exemple, je m'adapte beaucoup aux cultures locales, aux couleurs locales. En Bolivie, j'ai trouvé ce lieu perché à 4000 mètres d'altitude, une ville minière. J'ai essayé de rendre un hommage à cette vie très difficile et de représenter les mineurs vivant sur place et avec leur activité.
Après un Space Invader à la station spatiale, il compte bien envahir la Lune. Cette exposition, c'est le rêve démesuré de Fabrice Bousteau, directeur de Beaux-Arts Magazine, qui propose de gagner 100 sérigraphies du 1500e Space Invader.
Alors sachez qu'il y a 350 000 chasseurs de Space Invaders dans le monde, dont notre rédacteur en chef, Mickaël Thébault. Je ne sais pas combien il a de photos sur son téléphone, mais c'est très impressionnant. Enfin, quant à l'exposition qui est à voir dans les anciens locaux de Libération rue Béranger à Paris, elle a lieu jusqu'au 5 mai, cette exposition. Pour l'instant, c'est complet, mais il se dit que des créneaux nocturnes seront mis en ligne dans les prochains jours.
Merci Florence Paracuelos. 9h20, Léa Salamé reçoit la créatrice de mode Victoria Beck.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
La météo, Marie-Pierre Planchon, avec une matinée qui sera plus agréable.
Et oui, le ciel est plus clément après le ciel de Trenne d'hier, mais il faudra quand même attendre les effets du soleil qui va dissiper les brouillards et faire remonter des températures, car avec ce ciel plus dégagé, c'est le retour des gelées depuis la fin de nuit. Mais on a quand même une nouvelle dépression aussi irlandaise qui arrose déjà la Bretagne sous le vent. Et puis dans le sud, on a aussi des entrées maritime poussé par un vent d'autant assez fort et qui ennuage le Languedoc-Roussillon à cause d'une dépression sur le golfe du Lion qui commence à remonter. Côté du mercure, donc, c'est descendu à moins 5 au Puy-Loude, moins 4 dans la Marne, moins 2 à Guéret, 0 à Dijon alors qu'il fait 11 à Menton et à Collioure, en se rappelant, Nicolas, que s'il gèle le 25 mars, il faut faire provision de grains et de vin.
Ah bah ça c'est dit, on va le faire, ouais. Et on va surveiller le sud pour cet après-midi.
Car on a une dépression sur le golfe du Lion qui va générer une forte instabilité qui va remonter donc dès cet après-midi, surtout ce soir et demain. Attention sur l'arc méditerranéen jusqu'en Corse et provoque un épisode cévenol avec de forts cumuls de pluie attendus et des vents très forts avec l'Hérault qui est placé déjà en vigilance orange vague submersion dès demain matin. Puis sur toute la façade ouest, ça va se couvrir avec des pluies sur les Pyrénées et le Pays Basque et sur la Bretagne encore. Partout ailleurs, l'après-midi se passera sous un ciel plus lumineux, plus ou moins voilé, avec peut-être une chance de voir ce soir la pleine lune des corbeaux ou des tempêtes avec des valeurs qui vont commencer à remonter un petit peu sur la moitié sud. Il fera 10 à Quimper, 11 à Metz, 12 à Paris au Havre, comptez 15 à Toulouse, 16 à Perpignan, 17 à Lyon, hier et Ajaccio, et 20 à Anglette.
Merci Marie-Pierre, il est 8h20.